Oui, bon, dans les épisodes précédents, Martine Aubry revient et elle n'est pas contente. Leonardo DiCaprio revient et il n'est pas content. Les agriculteurs reviennent et ils vous traitent de petits zizi. Nous sommes le lundi 7 mars 2016, la Terre tourne et wesh les sauces, cette fois c'est la bonne. Wesh les cums, salut yo, c'est DJ Benji pour vous faire une spéciale dédicace en ce premier numéro de mars de Se Passer la Bonne, le podcast qui vous informe de ce qu'il se passe, de ce qu'il faut faire pour réviser les concours de journalisme. J'espère que vous allez bien, c'est le numéro 5 déjà. Dans pas si longtemps, le 12 mars, il y aura des portes ouvertes à l'ESJ, allez-y. C'est très sympathique, c'est, je le répète encore une fois, c'est vraiment l'école type pour laquelle ce projet et ce podcast sont faits, puisque les concours sont tournés de sorte à ce que les réponses se trouvent dans ce podcast. Je ne sais pas si c'était intelligent ou intelligible ce que j'ai dit, mais en tout cas je le pense et c'est tout ce qui compte. Sinon, n'oubliez pas de vous préparer pour le CELSA qui va être le prochain concours à venir, Next in Line. N'oubliez pas que c'est une série de questions très 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 factuelles sur l'actualité, notamment en février et mars, des questions de culture générale assez pointues, mais qui ont toujours un trait avec l'actualité, de toute façon je reviendrai dessus par écrit, de l'anglais pas simple, qui demande un beau C1, un beau niveau C1 pour appréhender ça, et d'autres épreuves, dont une de créativité, que j'espère vous allez dominer. En tout cas, c'est le premier tiers que vous avez déjà fait, donc c'est pas mal, mais c'est toujours pas, c'est loin d'être fait, quoi. J'espère que Sciences Po s'est bien passé pour ceux qui l'ont passé. Parmi vous, j'en connais 2-3 pour le moment. Et en parlant de faire des rencontres, n'oubliez pas de checker le site, cette fois c'est leone.fr, où se trouvent toutes les autres données que je peux vous faire ou que je suis en train de construire. Donc déjà 2 interviews de poster, alors là, des journalistes du Monde. Je vais la semaine prochaine passer à Paris pour interviewer Rémi Le Champion, qui est le directeur adjoint de l'IFP, donc on va avoir le point de vue d'un vrai rédacteur de concours et d'une grosse légume entre guillemets, l'expression est un peu malheureuse mais bon c'est la première qui me vient, il est 1h du matin ici, d'une école reconnue, donc son point de vue sera extrêmement intéressant sur plein de choses. Je vais passer voir des amis et collègues du Figaro qui eux vont représenter plus des parcours qui sortent d'écoles reconnues, des parcours un peu des golden parcours où tout l'on réussit mais avec pas mal de boulot derrière. Et je pense qu'Adrien Guillotot, si normalement on se voit comme prévu, pourra vous raconter comment il a passé son oral de CELSA. C'est absolument délicieux et inspirant pour nous tous. Sinon, pas grand chose d'autre à dire. On est parti pour une rubrique internationale assez fat. Bon, alors on va commencer évidemment avec les États-Unis et le Super Tuesday. On aime bien donner des noms à des périodes très spécifiques aux States, hein. C'est d'ailleurs bientôt la March Madness. Donc, le mardi précédent, ce mardi, 11 États ont voté en même temps pour désigner les candidats des deux camps, une synchronisation qui date de 1984, pour aider les gens d'État du Sud à s'intéresser à leur propre élection présidentielle à l'époque. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Trump remporte 7 États et accentue son avance, tandis que Rubio et Cruz s'affaiblissent mutuellement. C'est évidemment un petit peu plus simple avec 2 candidats pour les démocrates, mais Clinton creuse l'écart avec 7 contre 4 pour Sanders. Donc, ce qu'il faut retenir pour le moment, de manière archi-provisoire, c'est que Clinton est quasiment la candidate démocrate, en tout cas elle en prend le chemin très très concrètement, et la seule menace entre guillemets de Donald Trump à ce stade, c'est Rubio. En Grèce, des dizaines de milliers de réfugiés sont coincés sur place après la fermeture de la route des Balkans, encore une fois. C'est tendu sur cette zone. Le gouvernement grec estime qu'entre 50 et 70 000 migrants devraient être bloqués en mars si la situation continue. Athènes a demandé 450 millions d'aides à la Commission européenne et mis en chantier 4 camps temporaires. Vous avez grave intérêt à étudier ça sur une carte. On parle de migration tous les jours. Vous devez réviser votre géographie dans ces zones chaudes et pouvoir situer les pays limitrophes, par exemple. En Irlande, une petite explosion ayant fait l'effet d'une bombe dans les législatives du 26 février, puisque le Sinn Féin est arrivé troisième, kaboum, badaoum, et si vous ne savez pas ce qu'est le parti et que vous n'avez pas pigé mes effets de manche d'un Google assez sophistiqué, c'est l'ancienne aile politique de l'IRA Oi Mate. Le Fine Gael est toujours premier parti, et le risque de coalition avec le deuxième, le Fianna Fáil, oui, le Fianna Fáil, est peu probable, mais je voulais juste rappeler l'existence du premier. En Espagne, la libération polémique d'Arnaldo Otegi, militant basque et figure de l'ETA, mais partisan de la fin de la lutte armée. Plus précisément, ancien responsable de Batasuna, bras politique séparatiste basque de l'ETA, après 6 ans de prison pour appartenance à un groupe terroriste en qualité de dirigeant. Pourquoi est-ce polémique? Parce que l'Espagne n'a pas de majorité définie depuis décembre, la gauche radicale est contente et estime qu'on ne devrait pas aller en prison pour ses idées, et le chef de file des libéraux Ciudadanos, Albert Rivera, fait signaler au premier qu'il ne tenait pas le même discours que ce sont des opposants vénézuéliens qui sont emprisonniers. Quand ce sont été. Bref, je me comprends, la grammaire n'est pas vraiment avec moi ce soir. En Espagne, Podemos, le parti gauche radical, s'est vivement opposé à la formation d'un gouvernement socialiste. En effet, le parti vote contre l'investiture du socialiste Pedro Sanchez. Rappelez-vous Pedro Sanchez de Jacques Dupont espagnol. Sans surprise, Pedro Sanchez, candidat socialiste à l'investiture, n'a pas obtenu mercredi le soutien de la majorité des députés à son investiture comme chef du gouvernement. Je cite Le Monde, avec 131 voix en sa faveur, celle de son groupe et du parti centriste libéral Ciudadanos, avec lequel il a signé un accord de gouvernement, le PSOE est resté loin de la majorité absolue requise. Quise, 219 députés ont voté contre son investiture. En Iran, des élections à Téhéran qui ont vu la défaite à Téhéran, la défaite, et oui, de plusieurs figures conservatrices au profit des candidats réformateurs, vous l'aurez deviné. Alors, on n'a pas tous l'organigramme iranien en tête, mais ces ultra-conservateurs sont opposés au président Hassan Rouhani et à l'accord sur le nucléaire iranien. Aucun des 30 élus de la métropole au Parlement ne comporterait d'ultra. Alors, pas de bol, la tête de liste était 31e. Même chose pour l'Assemblée des experts, un corps de 88 clercs dont le rôle est de potentiellement nommer le prochain guide suprême. Encore une fois un petit verbatim, l'actuel chef de l'assemblée, l'ayatollah Mohammad Yazdi, proche du guide suprême, est également rejeté. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, ancien président et vieux régal du guide suprême, Ali Khamenei, recueille le plus grand nombre de voix pour l'assemblée des experts à la tête d'une liste où figure le président Hassan Rouhani. Les conservateurs demeurent majoritaires dans cette assemblée appelée à nommer le prochain guide, avec un grand G, mais ils perdent certains de leurs leaders. Dans des dimensions bien moins, on va dire, politiques, mais tout aussi susceptibles de tomber. En Albanie, vous aurez certainement entendu parler de cette chaîne dont les présentatrices font leur taf sain, généreux et à l'air, pas trop planqué par une veste ouverte. C'est audacieux pour un pays archi-patriarcal et puritain, on se croirait chez la Fox, dis donc. Alors retenez donc la particularité de cette chaîne, Zjarr TV, Z-J-A-R-R. Au Brésil, l'ancien président Lula est soupçonné de corruption. La police brésilienne a perquisitionné son domicile à la recherche de faveurs d'entreprises du bâtiment. 7 millions d'euros de faveurs et toutes ces entreprises faveur-friendly sont listées dans le scandale Petrobras, une giga affaire de corruption qui mine le pays depuis 10 ans. C'est vraiment quelque chose que vous devez voir, quelque chose susceptible de tomber pour une question d'actualité à développer, une sorte de variation de Big Malion qui a contribué à la plus forte chute du PIB. Jetez-y un œil. En Suisse, j'ai l'impression qu'on parle des Suisses, de l'UDC et d'une votation anti-immigrés à chaque année, précisément en fin février. Mais bref, le week-end précédent, 59% des votants n'ont pas approuvé un texte d'initiative de l'UDC pour le renvoi effectif des étrangers criminels. Fin de la citation. Condamnés pour meurtre, effraction, escroquerie ou trafic de drogue. Fameuse Union démocratique du centre à l'affiche toujours du mouton blanc qui boute un mouton noir hors du drapeau suisse. Alors, cette mesure a déjà été acceptée par référendum en 2010, mais pas super convention des droits de l'homme friendly. L'UDC a revu sa copie. Les stats prévoyaient ainsi plus de 10 000 expulsions par an, mais un front républicain existant, mais fragile, a sévi avec autorité. Et sans aucun rapport pour rester en Suisse, le canton de Genève a déposé plainte contre X pour mise en danger d'autrui et pollution des eaux pour le central nucléaire de Bugy en France. En Corée du Nord, je vais prendre le ton dédié. Le glorieux royaume de Corée s'est vu subir les affres du démon occidental. L'ONU a osé alourdir les sanctions contre le glorieux pays. Bon, alors vous direz, c'est monnaie courante, mais c'est son précédent. Le Conseil de sécurité l'a adopté à l'unanimité en représailles au dernier essai nucléaire. Leur sucre, enfin, plus ou moins les exportations de charbon, soit $1 milliard en moins par an. Alors, si nous cessons les livraisons alimentaires, la faim va monter, nous risquons une crise humanitaire avec l'arrivée de millions de réfugiés. De plus, si nous coupons la fourniture de pétrole, leur économie s'arrête. C'est une citation de Hong Renwei, le vice-président de l'Académie des sciences sociales de Shanghai. La Chine est toujours plus diplomatiquement embarrassée par son voisin et craint un effondrement du régime aux conséquences imprévisibles. Et alors là, truc de fou, Pyongyang a annoncé se retirer du Conseil des droits de l'homme. Je vous laisse tirer ce que vous voulez de cette conclusion, mais avant d'avoir commencé cet enregistrement, à peu près 5 minutes avant, la Corée du Nord a déclaré vouloir éventuellement commencer des attaques nucléaires préventives sur la Corée du Sud et les États-Unis en toute tranquillité au KLM. Au Bénin, il y a 33 candidats pour l'élection présidentielle. Un petit retard de logistique a repoussé l'échéance, un petit retard d'envoi de cartes d'électeurs. Et parmi ces 33 candidats, le favori est Lionel Zinsou, le premier ministre franco-béninois. Thomas Boni Yayi se retire au terme de 2 mandats, conformément à la Constitution. Zika est accusé par la revue médicale The Lancet d'aider au développement du syndrome de Guillain-Barré qui paralyse les membres puis les poumons, le bon délire. En bref, c'était peut-être dit en off, mais c'est dit quand même, le pape a provoqué une polémique en parlant d'une invasion arabe. Alors tout de suite, c'est l'image d'un pape assez cool et relativement progressiste, progressiste comme peut l'être un pape, qui est écorné. Alors lui-même a sorti cette expression en faisant les doigts lapins, les guillemets, clac clac, ce qui rend cet homme un peu spécial à mes yeux. Alors il l'a dit, il l'a littéralement dit, mais n'hésitez pas à retracer le contexte de cette phrase si jamais on vous interroge dessus. Et enfin, Mikhail Korniyenko et Scott Kelly sont revenus sur Terre après 340 jours dans l'espace, un essai pour un futur voyage sur Mars. Le jumeau de Scott Kelly est resté au sol pour comparaison physiologique, pour évaluer des effets de longs voyages de ce genre. Alors, dans un des commentaires sur iTunes, et je vous remercie de commenter, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à commenter pour faire connaître le podcast aux gens qui seraient intéressés, aux gens que ça concerne. D'ailleurs, merci à iTunes d'avoir mis, cette fois c'est la bonne, en home des podcasts directement, d'annoncer les pauses musicales. Alors, c'est pas un truc que je ferais, là vraiment c'est évident, mais c'est vraiment un truc que je ferais jamais, parce que j'aime bien quand ça arrive un peu de nulle part, à l'affaire sensible, mais ça correspond quand même au programme, vous aurez compris à quel moment de la rubrique ça arrive. Mais bon, et vous aurez évidemment compris qu'il y a toujours un rapport. Il faut vraiment que j'explique pourquoi je mets un titre de Jungle là. Still gonna bring the heat. me sens pas forcément plus malin de préciser qu'en plus il y a des sirènes de police dans ce titre. On va passer à la France. Une série de mesures qui vont tous nous faire plaisir. Déjà, Michel Sapin a annoncé que le déficit public 2015 sera inférieur aux 3,8% promis, prophétisé. Certes, mais ça reste au-dessus du fameux 3% imposé par l'Union européenne. Alors, plus en précision, le procès du meurtre d'Aurélie Fouquet fait apparaître un gimmick des concours de journalisme, le beau Redouane Faïd. Il fait partie des 9 accusés, pas pour meurtre en ce qui le concerne, mais il est à l'origine du braquage avorté et il en finit par tuer Aurélie Fouret, policière. N'hésitez pas à retracer la bio de ce monsieur archimédiatique au sourire bright, qui est aussi un criminel, et multi-récidiviste, et multi... Je sais pas comment on peut appeler quelqu'un qui se barre de sa prison régulièrement, mais bref, c'est un véritable personnage d'Oz. Ensuite, le Conseil de l'Europe, et plus particulièrement la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, je cite, constate une augmentation importante du discours de haine et surtout de la violence motivée par le racisme et l'intolérance, ayant conduit à plusieurs attentats meurtriers, en particulier motivés par l'antisémitisme. Cette situation est d'autant plus inquiétante qu'il existe un niveau important de sous-déclaration du crime raciste et homo-transphobe. Les Roms seraient une cible récurrente. Ensuite, voilà quelque chose qui vous concerne méga directement. Le décret d'avril qui sécurise l'entrée en master, en gros qui prime la sélection à l'entrée des cursus après Bac plus 3. Alors, Najat Vallaud-Belkacem a promis de faire figurer une liste de cursus très limitative. On parle de 140 000 places en M1 et 130 000 en Master 2. Et ça, c'est avant cette mesure, donc a priori, presque tous vont y arriver. Fatalement, l'une des pistes avancées serait de rendre aussi la licence plus difficile. Ce qui nous concerne aussi, c'est l'impact que ça va avoir sur les écoles de journalisme, puisque ça les rend dans une zone grise, borderline grise plus foncée, borderline illégale. Donc ça va être une bonne piste de réflexion pour tous les intervenants. D'ailleurs, j'ai rencontré Arnaud Mercier qui nous en a parlé. Ce sera publié bientôt sur le site. Alors, le démantèlement de la jungle de Calais, vous aurez peut-être vu cette enquête exclusive un petit peu opportuniste sur le sujet, c'est le début de la fin d'un très très grand arc de l'actualité française, ça ne s'est pas très bien passé, difficile de réussir cette opération médiatiquement, surtout à coup de lacrymos et de bébés qui pleurent. Une entreprise privée mandatée par l'État a bulldozé une vingtaine de cabanes après le rejet d'un recours déposé par plusieurs associations. La juge a tout de même demandé que plusieurs zones répondant à un besoin réel, comme l'école, le théâtre ou le centre juridique de ce microcosme créé par les migrants et les associatifs, soient conservées. Que propose l'État ? 102 centres d'accueil répartis dans la France sont censés les aider à déposer plus simplement une demande de titre de séjour. En revanche, la plupart des habitants sont ici en transit pour rejoindre le Royaume-Uni. Un centre d'accueil local a, lui, 1500 places. Il n'en reste que 200 et les migrants de la jungle sont de 4 à 16 fois plus selon les sources. Cette semaine a vu l'organisation d'un sommet franco-britannique sur le sujet. Les United Kingdom ont débloqué 22 millions d'euros sur une base de 60 en plus pour gérer la crise à la frontière. On va rappeler que les accords du Touquet de 2003 permettent à des agents britanniques de contrôler en France et inversement. Retenez ce que sont les accords du Touquet, je vous en supplie. Pourquoi je vous en parle ? Car Emmanuel Macron a expliqué que cet accord serait remis en cause si le Royaume-Uni appliquait le Brexit. Traduisons-le, si tu te barres du club, tu te débrouilles avec les migrants. Rattaché au Premier ministre, une nouvelle fonction au gouvernement, l'exécutif va publier dans les prochains jours le décret d'attribution qui installe dans ses fonctions l'inattendu secrétaire d'État chargé de l'aide aux victimes. Juliette Méadel aura principalement pour mission de coordonner l'action de l'État en direction de toutes les personnes qui ont été touchées directement ou indirectement par les attentats terroristes de l'année 2015 en région parisienne. 2200 demandes d'indemnisation ont été déposées auprès des fonds de garantie des actes de terrorisme. Juliette Méadel, elle, parle de 4000 dossiers. Alors, la loi du travail a été reportée d'une quinzaine de jours pour sa présentation initialement prévue le 9 mars. Manuel Valls a déclaré vouloir approfondir la discussion. Le lendemain, Myriam El-Khomri est hospitalisée pour un malaise. Un malaise ? Non ! Hollande dément et parle d'accident domestique. Et François Hollande est rapidement démenti, oui, par la concernée. Dans la série « La France adore ses politiques », Manuel Valls est allé visiter le salon de l'agriculture où tout homme politique de gauche s'est fait conspuer ou littéralement fait traiter, je le répète, de petit zizi. Mais c'était peut-être pas Manuel Valls. Je vous laisse regarder qui s'est fait insulter parce que ça fait très CFJ comme question, ça. C'est spoiler, c'est un ministre. Je vous laisse rechercher qui est concerné. Le Premier ministre, lui, a évoqué des échanges rugueux mais respectueux dans un contexte très difficile pour les professionnels de l'agriculture. Finalement, c'est Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen qui ont été le mieux accueillis. Même 7 ans après le fameux casse-au-pauvre con. 7 ans, d'ailleurs, je sais pas compter. 8, hein, dis donc. Le ministère des Finances annonce une excellente chasse à la fraude fiscale pour 2015, soit 21,2 milliards d'euros. Mais entre les faillites et les insolvables, la recette tombe à 12,2 milliards pour l'État. Cette semaine, des écoutes policières nous ont fait découvrir l'univers des jeunes filles qui veulent tuer pour Allah, toutes entre 14 et 19 ans, et maintenant un chiffre. Sur 84 mineurs présents en Syrie, 51 seraient des filles selon leur enseignement. C'est une double page de dingue nommée Jihad Suicides, paru dans Le Monde daté du 4 mars. Des nouvelles de l'affaire au meilleur nom ever, Air Cocaine. L'Égypte a extradé Christophe Naudin vers la République Dominicaine, qui avait participé à l'évasion de deux pilotes français condamnés là-bas pour trafic de drogue. Je rappelle que la star de cette affaire, c'est Franck Collin. L'obligation de passer par internet pour s'inscrire à Pôle emploi est maintenant étendue à toute la France, et même si ça ne vous concerne pas immédiatement, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est très pertinent avec notre corps de métier. Mars Actu est un jeune journal électronique relancé par ses lecteurs par financement participatif en octobre, mais Mars Actu a surtout fait l'actu à Marseille, mais surtout parce que ses locaux ont été cambriolés deux fois en une semaine. Le webzine est spécialisé dans des sujets locaux polémiques. Mars Actu a ainsi révélé l'embauche du fil de Stéphane Ravier par la mairie que l'élu Front National dirige. Ce n'est qu'un exemple. Le reste, le reste. Annoncé avoir reçu une offre d'achat de la part de Conforama. Ces derniers, pour moins d'argent, avaient déjà approuvé une autre offre de la Fnac. Il y a maintenant le choix et c'est une histoire qui revient souvent. Par exemple, dans les télécoms, pour ce genre de triangulaire, affaire à suivre. BMW fête aujourd'hui ses 100 ans. C'est tout. Vous êtes là à lire quelle grande marque automobile a fêté ses 100 ans le 7 mars ? Eh bien, c'est BMW. Dans le sport, Michel Platini, président de l'UEFA, est suspendu de toute activité footballistiquement footballesque et a fait appel devant le tribunal arbitral du sport, le grand Manitou du domaine. Évidemment, il souhaite qu'une décision soit rendue avant le début de l'Euro le 6 juin. Netflix diffuse enfin la saison 4 de House of Cards sur Netflix, pour un show original Netflix. Et lorsque n'ont pas assez dit les médias, c'est que toute la série bascule sur Netflix, qui... et pas mal pour des gens comme moi qui n'ont jamais vu un seul épisode et qui ont été spoilés par Canal et Laurent Saïm tous les jours. Alors ça peut sembler sans importance, crucial pour nous, mais c'est un cas de chronologie des médias foireux qui était programmé. Netflix se retrouve le cul entre deux chaises sur les ayants droit. Pour les films et la fiction, les droits sont négociés pays par pays. J'en profite pour vous dire qu'il y a 70 millions d'abonnés dans le monde, à Netflix, évidemment, dans le monde. En sport, on manque un peu d'exploits sportifs. Là, perso, je peux toujours vous dire précisément le record du monde de saut à la perche de Renaud Lavillenie, 6m16, et son précédent descenteur, Sergei Bubka. Vous n'oublierez jamais ce genre de choses. Et en l'occurrence, Alexis Pinturo a reporté sa 4e victoire d'affilée en slalom géant à Kranjska Gora, en Slovénie. Il égale le record de Jean-Claude Killy pour 15 victoires en Coupe du Monde de ski alpin. Et vu qu'on parle de ski, le Français devient le premier biathlète de l'histoire à remporter le concours général 5 fois de suite. En culture, alors, deuxième round pour les Oscars. La 88e édition animée par Chris Rock. Je cite, on était trop occupés à être violés et lynchés pour se préoccuper de qui était le meilleur directeur de la photographie. Quand votre grand-mère pend au bout d'un arbre, c'est difficile de s'intéresser au meilleur court-métrage documentaire. Alors la polémique Oscar So White a été prise à bras-le-corps comme jamais par l'acteur et humoriste. Et tout ce qui a été dit il y a deux semaines, c'est validé, mais c'est pas trop dur. Leonardo a été meilleur acteur, ça doit pas éclipser l'excellente Brie Larson en meilleure actrice. D'ailleurs, Room sort ce mercredi en même temps que Brooklyn, comme ça vous aurez pu voir tout le palmarès du Best Picture. Alejandro Inarritu pour le meilleur réal, Spotlight Fuck Yeah, je le savais, je l'avais dit, pour le meilleur film, Le Fils de Saul pour le meilleur étranger. N'hésitez pas à réviser la filmo de Léo. Quitte à ce qu'on vous pose une question sur la plage. Alors, quel était son discours ? Nous devons soutenir les leaders dans le monde qui ne parlent pas pour les gros pollueurs et les grandes multinationales, mais qui parlent pour toute l'humanité, pour les indigènes, pour les milliards de défavorisés qui sont plus affectés par le changement climatique. Voilà, le changement climatique vient d'être renouvelé pour une nouvelle saison. Je cite une vanne sur Twitter, merci à son auteur. Ennio Morricone a enfin eu un prix à 87 ans et Mad Max a moissonné tous les prix techniques. C'est normal, il les mérite. Alors pour les Césars, par contre, tous mes pronostics étaient complètement foireux. Alors c'était moins juste. Fatima, meilleur film. Mustang a donc eu le meilleur premier. Et Vincent Lindon, en acteur, bon, quand même. Et Catherine Frode, quand même, de l'autre côté. Retenez quand même qui est Lumna Abidar et les tracas massifs qu'elle a eu. Andrei Makin, écrivain d'origine russe, succède à Assia Djebar à l'Académie française. Alors pourquoi elle lui succède, vous demandez? Ben, elle est morte, bande d'andouille. Lisez L'amour, la fantasia. C'est une des meilleures choses qu'on m'ait mis sous le pif en fac de lettres. Alors Apple contre le FBI toujours, Tim Cook a annoncé qu'il contesterait les demandes du FBI, voire le podcast précédent, avec un argument massu. Le code informatique serait une forme d'expression écrite. En tant que tel, il est protégé par le premier amendement de la Constitution américaine qui consacre la liberté d'expression, et le FBI ne peut contraindre l'entreprise à s'exprimer en produisant un logiciel contre sa volonté, explique-t-il. Alors, pour la première fois, Google Car a provoqué un accident avec un bus. Alors, sans aucune gravité près du siège à Mountain View, les Google Cars sont sans conducteur, elles sont sont automatisés. Du coup, ça va poser une foultitude de questions au hasard sur leur responsabilité. Et tant qu'on est dans les collisions, un avion de ligne d'Air France a croisé la route d'un drone non identifié au-dessus de Roissy, près de l'endroit numéro 1 où il est interdit d'en faire voler un, avec peut-être l'Élysée en second. Sophie Dessus est décédée. Cette élue corrézienne et députée socialiste avait été connue pour avoir fait l'objet du gringue de Jacques Chirac dans une séquence diffusée par Le Petit Journal en 2009. N'oubliez quand même pas qu'elle avait aussi une vie et une carrière et ne parlez pas d'elle que dans vos copies comme je viens de le faire. Enfin, je pense qu'il faut parler de Touche pas à mon poste, de Mathieu Delormeau, d'Hanouna et d'un abcès qui visiblement est en train de faire gonfler en plein jour par tout ça. Ou alors nous sommes juste dans notre délire, enfin bref, pick your poison, je vais me contenter de cette litote. Ouais, la question bonus, c'est la dernière rubrique qui vous dit de noter des petits trucs importants qui sont susceptibles de tomber, des petits trucs en vrac que vous avez intérêt à mettre dans vos petites fiches. Avant ceci, on va retourner à Carrière sur scène pour une dédicace de Bon Aloi, oui, le 7-8, le 7-8 Terre de Contraste où tous les crimes bizarres et toutes les mises en scène bordéliques relayées par la PQR se passent, oui, le 9-2, rien, le 7-8, c'est glauque, c'est là-bas que tout se fait. Je sais pas ce que je raconte, mais bref, c'est une blague entre nous. Je reviens donc faire une dédicace là-bas pour Jean-Michel et Yann Benoît. Je sais pas, je pourrais faire un haïku. Cette fois, c'est la bonne. Ça fait 5, c'est pas mal. Ça s'enjaille bien à carrière 7. Bientôt le printemps. Voilà, 5-7-5, un superbe haïku en dédicace à carrière sur scène. C'est une reward de la campagne de crowdfunding qui était donc destinée à un très très haut palier et vous allez tous bientôt recevoir les cartes et les stickers. Je serai vous, je serai fou de joie. Donc, la question bonus. Alors, c'est parti. Avec Apple, il est toujours bon de rappeler qui est le patron du FBI. C'est James Comey. C-O-M-E-Y. Les Français ne sont plus le premier partenaire commercial de l'Allemagne pour 2015. On s'est fait ravir ce titre par les États-Unis. Notre prochain représentant à l'Eurovision en Suède est Amir, ex-candidat de The Voice avec le titre « J'ai cherché ». Tout juste sorti du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré a été nommé Conseil supérieur des archives. Des petits chiffres de mars, les taxis doivent maintenant appliquer un tarif forfaitaire fixe pour les trajets entre Paris et Orly-Roissy, de 30 à 55 euros. Plus de 1,2 million de demandes d'asile ont été déposées dans l'Union Européenne en 2015. La moitié d'entre eux sont les Syriens, les Afghans et les Irakiens. Vous avez donc le top 3 dans l'ordre. 362 Syriens si vous voulez être précis. Qui était Yves Guéna ? C'est un ancien président du Conseil constitutionnel, à mort à 93 ans. Il a présidé de 2000 à 2004. Richard Carassian, l'actuel secrétaire général du groupe Altice Media, va prendre la direction générale de Libération, y remplaçant Prer Fredenreich, désormais chargé de la filiale événement du groupe de Patrick Drahi. J'ai mis beaucoup de temps à recopier cette news vu qu'elle était seulement sur le site de Morandini pendant peut-être 2 ou 3 jours avant d'être prise par l'Express. Que sont les Shorty Awards ? Ce sont les Oscars des réseaux sociaux pour YouNow, Periscope, Meerkat, Vine et consorts et tout ce qui a trait à la vidéo. Vous aurez peut-être vu l'exoconférence d'Alexandre Astier, en tout cas c'est quelque chose que je vous recommande. Et il faut aussi s'intéresser un petit peu à la première partie menée par Bruce Benhamran d'y penser. Et enfin, tips ultime, retenez tout de suite que les habitants de Calais sont les Calaisiens. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais vous demander de réviser fort, de vous cultiver, de sortir, de respirer. N'hésitez pas à me suivre le projet sur @c'estlabonne, votre serviteur sur @ladébauche. Je vais pas tarder à changer de pseudo, hein, je pense, donc profitez-en. N'hésitez pas à poster des commentaires sur iTunes, sur le site, et aller voir les autres productions que je fais pour ce projet. Je pourrais faire des tas de publicités pour LOL Japon ou d'autres de mes projets, mais j'ai d'autres podcasts pour ça. Donc je vais juste vous laisser, vous faire des bisous sur la truffe. Parce que je vais passer une semaine absolument pas bonne pour le moral, donc je vous souhaite une bonne semaine à vous. Et portez-vous bien, et je vous souhaite de passer une bonne quinzaine, on se revoit dans pas longtemps. Ciao, bon courage.
On dit souvent que tout était mieux avant, qu'en pensez-vous?
Oh non!
C'est vrai.
Oh non, mais là, attendez, mais il y a connivence, là. Je couche avec l'auteur, là. Non, en plus, quand un mot, il imite un vieux, ça me fait cringer.
C'est un mot. Kaori.
Cringer, d'ailleurs, comme la duo d'Orelsan. Un truc du genre. Je sais pas, c'est une catastrophe. Le son a été pourri. On avait l'impression que je faisais ça de l'autre côté d'un téléphone. Oh là là, non.
Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa.
Puis on n'avait pas de Jinentai ni Zekai non plus.
Mais arrête, Pépé.
Mais qu'est-ce qu'il raconte, JPP?